Pourquoi donc n'est-ce pas la bonne saison ? Demanda le comte de Kent, en montrant le ciel pur de cette belle campagne qui s'étendait devant eux. Il faisait un peu chaud, certes, mais cela ne valait-il pas mieux que la pluie et la boue ? S'ils avaient connu, comme ces gens d'Aquitaine, les guerres d'Écosse, ils se seraient bien gardés de se plaindre. « Parce qu'on est à un mois des vendanges, monseigneur, dit le sire de Montpesat, parce que les vilains vont gémir de voir fouler leurs récoltes et nous opposer leur mauvaise volonté. Le comte de Valois connaît bien ce qu'il fait. Déjà en 1294, il a agi de la sorte, ravageant tout pour lasser le pays le plus vite. » Le duc de Kent haussa les épaules. Le pays bordelais n'en était pas à quelques barriques près, et guerre ou pas guerre, on continuerait de boire du claret. Il circulait en haut de la Thomas une petite brise inattendue qui pénétrait dans la chemise ouverte du jeune prince et lui glissait agréablement sur la peau, comme le seul fait de vivre procurait parfois une sensation merveilleuse. Accoudé aux pierres tièdes du créneau, le comte de Kent se laissait aller à rêver. Il était à 23 ans lieutenant du roi pour tout un duché, c'est-à-dire investi de toutes les prérogatives royales et figurant en sa personne le roi lui-même. Il était celui qui disait « je veux » et auquel on obéissait. Il pouvait ordonner « pendez ». Il ne songeait pas à le dire d'ailleurs, mais il pouvait le faire. Et puis surtout, il était loin de l'Angleterre, loin de la cour de Westminster, loin des lubies, des colères, des suspicions de son demi-frère Édouard II, loin des Despenser. Ici, il se trouvait enfin livré à lui-même, son seul maître, et maître de tout ce qui l'entourait. Une armée venait à sa rencontre qu'il allait charger et vaincre, il n'en doutait pas. Un astrologue lui avait annoncé qu'entre sa 24e et sa 26e année, il accomplirait ses plus hautes actions qui le mettraient fort en vue. Ses songes d'enfance devenaient brusquement réels. Une grande plaine, des cuirasses, une autorité souveraine. Non, vraiment, il ne s'était depuis sa naissance senti plus heureux d'exister. La tête lui tournait un peu d'une griserie qui ne lui venait rien d'autre que de lui-même, et de cette brise qui passait contre sa poitrine, et de ce vaste horizon. « Vos ordres, monseigneur !» demanda messire Basset qui commençait à s'impatienter. Le comte de Kent se retourna et regarda le petit sénéchal avec une nuance d'étonnement hautain. « Mes ordres, dit-il ? Mais faites sonner les busines, messire sénéchal, et mettez votre monde à cheval ! Nous allons nous porter en avant et charger !»« Mais avec quoi, monseigneur ? Mais pardieu, avec nos troupes, Basset !» « Monseigneur, nous avons ici à toute peine 200 armures et il nous en vient plus de 1500 à l'encontre, au chiffre que nous avons. N'est-il pas vrai, messire de Bergerac ?» Le sire Réginald de Ponce de Bergerac approuva de la tête. Le courtois sénéchal avait le cou plus rouge et plus gonflé que de coutume. Vraiment, il était inquiet et près d'éclater devant tant d'inconséquente légèreté. « Et des renforts, nulle nouvelle ?» dit le comte de Kent. « Eh non, monseigneur, toujours rien. Le roi, votre frère, pardonnez mon propos, nous laisse par trochoir. » Il y avait 4 semaines qu'on attendait ces fameux renforts d'Angleterre. Et le connétable de Bordeaux, qui, lui, avait des troupes, en prenait prétexte pour ne pas bouger, puisqu'il avait reçu l'ordre exprès du roi Édouard de se mettre en route aussitôt que les renforts arriveraient. Le jeune comte de Kent n'était pas aussi souverain qu'il y paraissait. Par suite de cette attente et de ce manque d'hommes, à se demander si les renforts annoncés étaient seulement embarqués, on avait permis à Monseigneur de Valois de se promener à travers le pays, d'Agen à Marmande et de Bergerac à Duras, comme dans un parc de plaisance. Et maintenant que Valois était là, à portée du regard, avec son gros ruban d'acier, on ne pouvait toujours rien faire. « C'est aussi votre conseil, Montpesat ? » demanda le comte de Kent. « À regret, Monseigneur. Oh, bien à regret !» répondit le baron de Montpesat en mordant ses noires moustaches. « Et vous, Bergerac ?» questionna encore Kent. « J'en ai les larmes de rage !» dit Ponce de Bergerac avec l'accent bien chantant qu'avaient tous les seigneurs de la région. Edmond de Kent se dispensa d'interroger les barons de Budos et de Fargues de Mauvezin. Ceux-là ne parlaient ni le français ni l'anglais, mais seulement le gascon, et Kent ne comprenait rien à leurs palabres. Leur visage d'ailleurs fournissait suffisante réponse. « Alors faites fermer les portes, messire sénéchal, et installons-nous pour être assiégés. Et puis quand les renforts arriveront, ils prendront les Français à revers, et ce sera peut-être mieux ainsi, dit le comte de Kent pour se consoler. Il gratta du bout des doigts le front de son lévrier, puis se réaccouda aux pierres tièdes pour observer la vallée. Un vieil adage disait « Qui tient la réole, tient la Guyenne. » On tiendrait le temps qu'il faudrait.